La deuxième nuit des musiques et voix du monde arabe se poursuit sur France Culture. Bonsoir Camilla Joubran.
Bonsoir Alban.
C'est en votre compagnie que nous allons poursuivre et terminer tout à l'heure cette nuit, au cours de laquelle nous avons déjà entendu une émission sur l'attachement du peuple égyptien à sa musique et bien sûr à Oum Kalsoum, une autre consacrée au rôle des sons et des voix dans le soufisme, et une troisième, à l'instant, retraçant l'histoire du oud, instrument roi des musiques arabes. Le oud, qui est votre instrument, Camilla Joubran, comme l'est d'ailleurs tout autant la voix de laquelle vous chantez les poètes arabes d'aujourd'hui. Oudiste et interprète donc, mais aussi compositrice, vous êtes l'une des figures les plus actuelles, les plus contemporaines et les plus singulières de la musique arabe moderne. Femme palestinienne, toujours en exil, mais libre citoyenne d'un monde musical sans frontières, vous y multipliez les recherches, les expérimentations et les rencontres, en tenant toujours les fils qui vous relient aux sources du passé. Vous nous direz ce qu'a été votre formation, ceux qui ont été vos maîtres, les voix qui vous ont influencé et inspiré. Vous nous direz, Camilla Joubran, ce qui guide à présent vos pas dans votre parcours artistique et vous nous accompagnerez pour la fin de notre périple qui nous mènera des musiques du Liban au raï de Sherar Emiti en passant par les extases et les possessions des musiques Gnawa. Femme, arabe, palestinienne, comment ces trois identités ont-elles construit, déterminé l'artiste Camilla Joubran? Laquelle de ces trois données aura été la plus déterminante?
C'est une histoire un petit peu longue. J'essaie de vous raconter un parcours qui a commencé assez jeune. J'étais petite et je suis née en 63 d'un père et une mère palestiniens. Donc, j'ai grandi dans un village. Même j'étais née à l'époque à Saint-Jean-d'Acre quand mon père était forgeron à cette époque-là. Mais après, on est retourné au village. Mon père, qui a voulu faire la musique pendant une période politiquement très nouvelle pour sa génération, suite à la Nakba en 1948 et l'établissement donc l'État d'Israël, et c'était l'époque d'un couvre-feu qui continuait à exister jusqu'à la fin des années 60. Ça veut dire on n'était pas libre même de circuler entre les villages et les villes. Et sa passion vers la musique était forte. Et heureusement. Et lui, il commençait à jouer le oud et ensuite fabriquer le oud, entre autres. Et avec ma mère, qui était, je crois que c'est une artiste cachée, qui était privée de réaliser son rêve de devenir une artiste, j'imagine. À cette époque, c'était impossible pour une petite fille de chanter ou bien aller étudier dans les pays d'à côté où les frontières s'est installées avec les pays arabes voisins à partir de 1948. Donc, elle m'a transmis sa passion vers l'art et vers la musique en général. Donc, à la maison, c'était mon père et l'encouragement de maman. C'était la radio comme outil de travail quotidien. Et c'était les chaînes arabes qu'on pourrait écouter à la radio à cette époque, notamment Saut al-Arab min al-Kahira, c'est la voix de Caire, c'est la chaîne la plus répandue à l'époque, et que j'ai appris à m'asseoir devant la radio à l'âge de 3 ans, écouter, apprendre, comme faisaient d'ailleurs papa et maman. C'était les débuts en fait de ce parcours.
Et par la suite, comment s'est fait votre apprentissage?
C'était le travail à la maison avec mes parents. On m'a appris de chanter par cœur, même sans comprendre les paroles des gros poèmes d'amour de l'époque. Notamment, c'était le répertoire égyptien des années 60 qui était vraiment les plus célèbres que tout le monde a écouté partout dans le monde arabe. Mais évidemment, comme on est en Palestine, en milieu de cette région de Proche-Orient, on a écouté quand même les répertoires de la grande Syrie qui venait de Liban et de la Syrie. Donc, c'était l'avantage pour moi, je pense, d'avoir vécu au milieu de ces deux grandes cultures. Et, mon père avait des élèves au fur et à mesure. Il a donné des cours et moi, j'étais présente. Papa, il avait son groupe à lui avec ses élèves. J'ai fait les répétitions avec eux et j'ai même participé au concert qu'ils ont fait à l'époque. J'avais une partie à moi, une chanson d'Oum Kalsoum et il y avait un autre chanteur donc qui l'a chanté autre chose. Et ça c'était jusqu'à l'âge plus ou moins de 13-14. Donc ça, j'avais cette ambiance là et la musique était un pratique quotidien.
Et puis ensuite, un peu plus tard, il y a eu le groupe Sabrine. Qu'est-ce que c'était le groupe Sabrine, Camilla Jobran?
Et à l'époque de l'adolescence, 14-15 ans, je me pose les questions jusqu'à... Est-ce qu'il y a autre chose que j'aimerais bien chanter? Et ok, le répertoire classique, etc. Ok, c'est ça, c'est bien. Mais c'est un peu loin de moi. C'est un peu loin de mon existence, de ma vie. J'avais envie de faire autre chose. Donc les années 70, c'était quand même... très marqué par la chanson de la résistance qui venait de partout du monde arabe. Et ça m'a énormément touchée. Et j'ai dit, tiens, il y a une alternative pour la chanson. Avec tous ces questionnements, je déménage pour aller à Jérusalem pour faire mes études à l'université hébraïque. Et ça, c'était en 1981. Et j'ai entendu parler du groupe Sabrine qui venait d'être fondé par Saïd Mourad en 1980. C'est mon frère Khaled Jobran qui m'a introduit Saïd Mourad. Et je suis allée aux répétitions, j'étais invitée et j'ai dit tiens, même si j'aime pas ce qu'ils sont en train de faire, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment à mes esthétiques traditionnelles. Quand même, j'étais complètement impressionnée par le fait qu'il y a un groupe de gens qui se posent la même question, et pas que, ils sont en train de répondre à cette question. Donc là, c'était mon deuxième école immédiatement.
Et quelle était cette question?
Le « qu'est-ce que j'aimerais bien chanter comme chanson à cette époque ?» Eh bien, on a soigné tout un style de musique, de chant, d'interprétation, de choix des poésies avec le groupe. Et pendant 20 ans, c'était ma recherche constamment et qui a quand même marqué cette génération et ça dure encore. Sabrine est devenue un groupe presque mythique par sa proposition d'une identité moderne, culturelle, palestinienne et arabe.
Vous avez donc été la chanteuse, donc le leader du groupe Sabrine de 1982 à 2002. Comment définiriez-vous, décririez-vous la musique que vous faites aujourd'hui, Camilla Jobran?
Suite à cette longue recherche que j'ai faite avec Sabrine, j'avais le courage et l'envie d'aller encore plus loin dans ma recherche musicale, mais cette fois-là, j'étais toute seule. Et suite à un travail en groupe, j'avais envie d'être seule, de prendre une distance par rapport aux choses, par rapport à mon actualité en Palestine. Je déménage, je m'installe en Europe en 2002 et je commence à travailler mes mélodies que j'ai entendues et pour la première fois essayer de composer moi-même ce que j'avais envie de chanter. Comment je le décris, c'est compliqué à dire. Et je sais bien que j'avais envie de garder quand même des certains bijoux que j'ai appris en chantant le répertoire classique. Mais j'avais envie d'aller au-delà de ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ces pierres fondateurs, fondatrices? Et en gros, c'est ça.
يا محلل finjal benino daya
Que venons-nous d'entendre, Camilla Joubran ? Que dit ce texte ?
Le titre de cette chanson, Suite Nomade 4, c'était une suite parce qu'on a commencé ce genre cette suite dans l'album précédent Naoul avec Sarah Murcia, donc contrebassiste avec laquelle on travaille en fait depuis l'époque de Sabrine 1998. Les 3-4 chansons de suite, ils sont basés sur des textes écrits par des poètes nomades d'origine bédouine. Les textes étaient publiés dans un livre d'un chercheur américain qui a vécu dans le désert de Sinaï et de Negev pendant 20 ans. Il a enregistré des paroles et des poèmes qu'on a récités oralement d'une génération à une autre. Et j'ai trouvé une modernité grave, très forte dans ces textes, même si elles étaient écrites vers la fin du 19e siècle. Et ça parle toujours de malheur de vivre, de manque de liberté et de la violence des actions politiques pratiquées dans cette région d'une manière ou une autre.
Vous chantez principalement les auteurs d'aujourd'hui. Pourquoi cette volonté, ce goût pour la poésie contemporaine ?
En passant des poèmes qui parlaient de l'amour comme Koulsoum a chanté et Abdel Wahab et toute cette génération vers des textes authentiques plus actuels en travaillant avec Sabrine, les textes de Hossein Barghouti, de Sobhi Zoubaidi, ce sont deux poètes palestiniens avec lesquels on a pas mal travaillé, ainsi que d'autres poètes arabes comme Fadwa Toukan, comme Saïd Higab d'Égypte, comme Talal Haidar de Liban. J'avais envie de lire ce que écrivent aujourd'hui les poètes. Ils parlent de quoi ? Ils s'inquiètent de quoi ? Et j'avais envie besoin d'avoir un compagnon dans mes paroles qui fait sens et logique à ce que j'avais envie de faire dans ma musique.
Et dans vos compositions, qu'est-ce qui prime ? Est-ce l'instrument qui dicte les choses ou au contraire l'instrument qui doit suivre, accompagner la poésie ?
Non, c'est tout un échange, une négociation. C'est sachant que les idées musicales, c'est eux qui dominent. Et le oud, c'est un interprète de ces idées musicales, d'une certaine esthétique que je sens que j'ai besoin d'exprimer avec ma voix aussi.
Vous êtes donc instrumentiste, vous vous accompagnez du oud. Parlez-nous un peu de cet instrument.
Moi, j'ai rencontré le oud quand j'avais 3 ans, 4 ans. Il était fabriqué à la maison. Et pour moi, c'était mon poupée préférée. Même si j'ai commencé à jouer qanoun assez tôt dans ma vie. Peut-être. C'est l'autre instrument. Qanoun, voilà. C'est comme un sitar avec beaucoup de cordes triplées. Et que c'était mon instrument avec le groupe Sabrine, je dois dire. Et mon père a joué aussi le qanoun. Il m'a appris beaucoup des règles et des bases et d'informations dans la musique à travers cet instrument. Le oud a dominé plus tard quand je suis venue en Europe, j'ai repris le oud. C'était une réunion presque avec cet instrument qui m'a permis de faire mes expériments dans la composition, dans la manière de l'interpréter comme instrument. J'ai pris toute ma liberté avec cet instrument parce que je ne me considère pas comme joueuse de oud dans le sens classique. Et du coup, ça me permet de reprendre, de traiter cet instrument avec toute une liberté et joie. Et le oud, c'est le maître de l'ensemble à tarte, l'ensemble classique arabe. Le oud, avec le qanoun, le ney, les percussions. Et le violon plus tard, l'accompagnant des chanteurs, classiquement parlant. Je viens de ce monde-là et je dis le oud a un autre rôle aussi.
Vous êtes une artiste contemporaine, vous chantez les auteurs d'aujourd'hui. Néanmoins, diriez-vous que votre musique s'inscrit dans une certaine tradition de la ou des musiques arabes ?
Je ne sais pas. Comment répondre à cette question? Je pense que ce que je fais, c'est une tentative d'expression d'un certain esthétique, d'un certain goût très personnel et que je trouve qui fait sens aux autres oreilles.
Vous laissez beaucoup de place à l'improvisation dans votre musique. Est-ce que c'est un des héritages, un héritage d'une certaine tradition, justement, cette improvisation ?
L'improvisation fait partie importante dans la musique arabe. Et c'est comme c'est le cas dans la musique de blues, de jazz ou d'autres traditions musicales fortes et sur lesquelles je suis initiée. Ça fait partie de mon éducation.
Le trompettiste allemand Werner Hassler, la contrebassiste Sarah Murcia dont vous parliez, le quintet avec 3 musiciens du quatuor XI, quels sens ont pour vous les rencontres avec d'autres musiciens, d'autres musiques d'ici, d'ailleurs, et d'autres instruments ?
Pour moi, la musique, c'est comme l'identité culturelle, a besoin des autres éléments qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est le sens basique des choses. C'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que j'avais envie de développer ma musique personnelle à moi. C'est à travers les autres oreilles, les autres expériments, les autres expressions qu'une culture pourrait grandir et s'enrichir. La rencontre avec Werner Hassler en 2002, et comme j'ai dit auparavant avec Sarah en 98, il y avait quelque chose entre nous, séparément évidemment, et plus tard ensemble, parce qu'on a fait un projet à 3. C'est une question de manière que eux-mêmes, ces deux personnes, menaient leur recherche musicale. C'est une alchimie, c'est comme l'amour. Et avec eux, j'avais la possibilité d'aller plus loin un petit peu dans mes pensées personnelles. Je pourrais et je peux penser personnellement et individuellement avec eux et en leur présence, avec leur contribution.
Est-ce qu'on peut dire que l'expérimentation est ce qui guide votre mouvement, Camilla Joubran ? Expérimenter des choses nouvelles, des combinaisons d'instruments, de sons ?
Assez jeune, je pense que j'ai fait une décision dans ma vie de de prendre une risque. Et, le travail que j'ai fait avec Sabrine, c'était le grand risque que je pense j'ai pris dans ma vie assez... Enfin, j'avais 18 ans, 19 ans, et, de marcher sur un terrain inconnu. Eh bien, la suite de mon travail personnel va dans le même sens.
Parmi les chanteurs, les chanteuses, arabes ou pas, quelles sont les voix qui vous ont particulièrement marqué et influencé?
J'ai écouté Oum Kulsoum à l'âge de 3 ans, comme j'ai dit tout à l'heure.
Oum Kulsoum, que paraît-il vous appelez le monstre? Pourquoi?
Enfin, le monstre... positivement parlant, oui. C'est juste c'est des compléments.
Côté
tellement
génie,
elle est forte.
Monstrueux.
C'est une génie, c'est une bête de scène. Je vais pas parler d'Oum Kulsoum parce qu'il y a tellement des autres qui savent mieux parler que moi, mais je dis que elle m'a marqué, cette femme. Je l'ai vue sur l'écran quand j'avais 4 ans. Ça m'a marqué, sa présence sur scène, dans une petite télé noir et blanc suspendue, dans un café au village, avec des mecs qui fumaient, qui avaient des moustaches. Il y avait Oum Kulsoum qui descend de plafond de ce café. Eh bien, ça m'a frappé, en fait. Je dis, mais comment est-ce possible qu'une femme sait faire tout ça? Eh bien, voilà, c'était le premier leçon. Si vous voulez, et après j'avais envie d'aller derrière, de comprendre ce qui s'est passé derrière ce travail que Oum Kulsoum a fait. J'avais envie de rencontrer les maîtres et qu'est-ce qu'elle a vécu quand elle était petite. Elle a écouté quoi? Mais moi j'écoute Oum Kulsoum, mais elle a écouté quoi? Qui? Et donc évidemment là ça m'a permis de rencontrer les grands maître de chant classique arabe de fin 19e siècle, début 20e siècle. Et j'ai apprécié encore plus profondément cette esthétique, cette maîtrise de la technique vocale qui sort de poitrine et non pas des voix de tête. Et tout en maîtrisant la microtonalité qui existait à cette époque, qui malheureusement on la trouve plus. Et c'était ça en fait c'est ma base et je m'appuie toujours sur cette base.
Comment votre musique est-elle reçue dans les pays arabes, Camilla Joubran?
Je dois dire que peut-être ne chante pas assez dans les pays arabes. Déjà à l'époque de Sabrine, ce qu'on nous faisions à cette époque était reçu comme une musique un peu étrange qui résonne pas vraiment une musique populaire palestinienne, non pas une musique traditionnelle. Mais avec le temps, les gens ont compris ce qu'on essayait de dire. Et on savait plus tard que nos cassettes étaient piratées, en fait, au Liban, en Syrie, en Jordanie et en Égypte. Et on commençait à tourner un petit peu dans quelques pays arabes avec Sabrine, notamment en Égypte et en Jordanie, parce qu'on a signé des accords de paix pendant des époques différentes, à partir des années, enfin, c'était Camp David, 98, et après avec Jordanie, donc ça nous a permis un petit peu de voyager, sachant que c'était toujours compliqué d'affranchir les frontières israéliennes, et c'était plutôt le piratage. Et le fait qu'il y a un groupe qui vit à Jérusalem-Est et qui insiste à faire un travail intéressant et malgré l'occupation. Donc c'était plutôt ce joie-là qui fait résonance parmi les jeunes dans d'autres sociétés arabes.
Et aujourd'hui, pouvez-vous aller chanter dans tous les pays, Camilla Joubran?
Encore pas vraiment. Je dois dire que à partir de ma naturalisation en France, j'avais le grand plaisir de voyager dans des pays qui étaient un permis pour moi, notamment l'Algérie, le Liban, mon rêve d'aller dans ces pays. Mais c'est quand même risqué parce que ça dépend de la situation politique en général, du moment. Donc je peux dire que oui, théoriquement oui. Voilà.
Si l'exil est une douleur, un artiste, une musicienne comme vous, peut-il y trouver une force, voire une certaine forme de liberté ?
Je peux dire que à travers ma musique, je me libère moi-même. Ça veut dire je transmets mes pensées.
Vous dites vous sentir comme sortie de la cage en Europe. Pourquoi avoir choisi la France ?
Je pense que j'ai une histoire d'amour très ancienne avec la langue française qui a commencé à l'âge de peut-être 8 ans quand j'ai regardé Bonouï les Petits sur la chaîne jordanienne à la télé. On venait d'acheter une télé, c'était le grande révolution à la maison. Il y avait Bonouï les Petits. Et ça m'a fasciné cette langue. J'ai dit, waouh. Voilà, j'aimerais bien parler cette langue un jour.
Vous parliez donc de l'amour de la langue. Est-ce que c'est une question de sonorité, une question de rythme ou davantage une question de sens qui guide votre recherche dans la musique ?
Je pense que pour moi, la langue arabe, elle est une source de sonorité, de rythmique, de syllabes, qui est une base de travail dans ma musique. Donc, je suis sensible un petit peu à la musicalité de la langue arabe, mais en général aussi. La langue française, pour moi, c'était cette douceur, subtilité des sons et des voyelles que nous on n'a pas dans la langue arabe. Il y a des voyelles que voilà qui n'existent pas et que je dis mais comment est-ce possible de tourner la langue et le palais et les lèvres pour faire autre son qu'on a l'habitude de faire dans la langue arabe. Et après qu'est-ce qu'on raconte dans la langue et cette liberté qui est exprimée dans cette langue qui me fascine aussi.
On dit d'ailleurs que vous avez une scansion très particulière, Camilla Joubran. Un rythme très particulier. Dans votre chant, le rythme de votre voix.
Enfin, ça fait partie, je pense, de la recherche musicale que je fais. Et ça fait partie de mon travail de déconstruction et reconstruction des éléments. Et que j'ai à la fois dans mes mains ou bien des éléments que j'apprends.
Merci Camilla Joubran. Nous retrouverons dans un peu plus de 2 heures, juste avant la fin de cette deuxième nuit Musiques et Voix du Monde Arabe. Après avoir écouté « Existe-t-il une musique libanaise ?», un numéro de Musique du Monde proposé par Caroline Bourgine en 1998, « Extase et possession », quatrième émission, « Les rites de possession au Maghreb » par Daniela Langer en 2001, et enfin « Shira Rimiti, l'étoile bédouine », un atelier de création radiophonique proposé par Marie-Hélène Bernard en 2000. La deuxième nuit Musiques et Voix du Monde Arabe se poursuit sur France Culture en votre compagnie Camilla Joubran. À tout à l'heure.